ter a fim.
Eh ben au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste et Urbi Comme Orbi, sans sponsor ni publicité. On est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle d'Aimé Césaire. C'est quand même un drôle de travail, je ne sais pas s'il en a beaucoup besoin, mais ce n'est pas grave. On va remercier Monique aux manettes, hein. Sœur Monique, je n'espérais même pas sa venue, et puis elle a franchi tout ça, elle a bordi tout ça, c'était extraordinaire. La semaine prochaine, Monique sera encore là, on recevra Joël Guéraud, L'homme sans horizon, c'est publié chez Libertalia, c'est un livre sur l'utopie. Ça vous inspire l'utopie, vous ?
Oui, oui, tout à fait.
D'accord, c'est contradictoire avec le côté politique ou pas ?
Pas du tout.
Non, pour moi
pas
non
du
plus.
Tout.
Hein.
Ça fait partie du rêve de choses à venir.
Voilà, donc on va parler d'Aimé Césaire. On avait rendez-vous il y a un petit bout, il y a au moins je sais plus ce qui s'est passé, il y a trois semaines, un mois comme ça. Et puis moi, on n'a pas fait l'émission et ça m'a permis quelque chose. J'ai réagi, j'ai été réactif, Françoise, j'ai relu France Fanon. Magnifique, non ?
Oui, oui, tout à fait.
Hein,
bien
magnifique,
sûr,
hein.
Bien sûr.
J'avais oublié à quel point c'était fulgurant.
Oui, oui.
Même au niveau de l'écriture.
Oui, de l'écriture, oui, oui. On sent d'ailleurs, il est influencé par Césaire, voilà. Si on peut dire. Il y a quelque chose d'une écriture césarienne. Mmh. Qu'on retrouve dans Fanon. Il ne faut pas oublier que Césaire a été son professeur.
Alors ça, c'est très... Vous êtes sûr ou pas ?
Ah oui, oui,
de
c'est
ça.
Sûr. C'est sûr. Oui. Il était son professeur au lycée Schœlcher, à Fort-de-France. Il en parle d'ailleurs. Et lui-même, Césaire en parle, d'avoir eu Fanon comme élève. Parce que Césaire, en fait, il a eu plusieurs générations d'intellectuels anticolonialistes de la Martinique, hein, qui sont passés dans sa classe.
Ce qui est très curieux, c'est que la Martinique, il y en a un qui est né en 13, non c'est ça non,
En 11.
Et l'autre, ils ont 12 ans de différence, a produit deux fulgurances.
Oui, oui, tout à
Fanon
fait.
Fanon et Césaire.
Oui, oui.
Magnifique.
Magnifique, oui. Oui, oui, oui non, non. Et puis, la Martinique. Ce qui est d'ailleurs un peu amusant, on en parlait une fois, c'est que de la Martinique, c'est des écrivains. Enfin, il y a surtout des écrivains. Et la Guadeloupe, des écrivaines.
Génial.
Simone Schwarzbart, Marie Scondé. Enfin, c'est assez. Enfin, on se disait la remarque.
Donc, j'ai redécouvert Fanon, un style fulgurance, etc. Et j'ai découvert effectivement l'influence de Césaire chez Fanon. Et pourtant, au niveau politique, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui bloque. Parce que si Fanon, lui, a rejoint le FLN, magnifique, hein, le magnifique politiquement, Césaire a quand même voté en 58 les pleins pouvoirs à De Gaulle.
Il a voté, oui, en même temps, bon, il s'en expliquait après Césaire. Je pense qu'il faut le prendre, il faut admettre des contradictions en lui. qu'il devient responsable hein, politique, avec tout ce que ça peut signifier aussi, de différent, qui n'est pas dans une situation révolutionnaire comme la situation algérienne. Je ne suis pas en train de dire c'est bien ou c'est mal, je veux dire d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. De se retrouver, il s'est retrouvé face à l'État français, mais d'une manière différente que dans la situation algérienne. L'État français, dans ce qu'on appelle les territoires, les départements d'outre-mer, n'a pas du tout été tendre. N'a pas du tout. On a tellement l'idée de la guerre en Algérie qu'on oublie ce qui s'est passé en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion, de répression féroce, mais féroce.
Madagascar aussi, hein, ils sont pas
Madagascar 47, plus, hein. Alors là, l'armée française jetait les insurgés de l'avion, des avions tout vivants, avaient exigé ensuite des scènes de soumission où les Malgaches devaient arriver à genoux devant l'officier français. On a totalement oublié ça. Mais même pour la Martinique, Guyane, Guadeloupe, l'Opréunion, ça se poursuit dans les années 70 jusqu'aux années 80. Mmh. Et donc, comme on a, en France, on a tendance à penser qu'avec l'indépendance de l'Algérie, quelque chose du colonialisme s'arrête, on oublie qu'il se poursuit et qu'il continue à se poursuivre dans ce qu'on appelle les Outre-mer. Et c'est vrai que Martinique a connu de la répression, comme d'ailleurs les autres territoires, mais fort, c'est-à-dire que la moindre grève était sévèrement réprimée, les gens étaient menacés. Un des grands amis, le frère de... L'un des grands amis de Césaire a été assassiné. Il y avait de la fraude électorale, il y avait vraiment les milices armées des grands propriétaires qui semaient la terreur. Donc il a eu affaire à ça et il ne faut pas non plus oublier ça. Il ne faut pas oublier. Il n'était pas dans un endroit passif.
Raphaël Confiant, je ne sais pas si vous connaissez son livre sur Césaire, c'est très brillant, mais on a l'impression que c'est une réaction un brin freudienne contre papa, tellement il ne lui pardonne rien.
Oui, il ne lui pardonne rien, c'est un peu à charge.
Voilà.
Je pense que je comprends, hein, je peux le comprendre, mais si vous voulez, Césaire, il arrive dans un Fort-de-France rempli de bidonvilles, il essaye de résoudre déjà les questions, qu'il y ait de l'eau courante, qu'il y ait de l'électricité.
En 48, c'est ça,
oui.
C'est ça.
Qu'il y ait des routes pavées, qu'il y ait des maisons solides pour que ça ne soit pas emporté par les cyclones. Des choses, évidemment, qui ne sont pas, qu'on peut considérer comme banales par rapport à des luttes héroïques, mais elles font aussi partie de ce que ça veut dire de lutter contre le colonialisme. Parce que le colonialisme, derrière lui, il avait laissé, il laisse encore rien. Rien. Il y a très peu d'instituteurs, il n'y a pratiquement pas de médecins martiniquais. C'est exceptionnel que des Noirs martiniquais aient eu accès à l'éducation, vraiment. Donc c'est ça aussi le colonialisme. Il a affaire, Césaire, quand il arrive et qu'il devient maire de Fort-de-France et député de la Martinique, à un pays, il le dit quand même quand il présente la loi de départementalisation, que 300 ans de colonisation française n'ont rien accompli. Tout à fait contraire à la doxa qui dit que la colonisation a fait des routes, des ponts et des hôpitaux.
Mais ce qui est très drôle par rapport au livre de Raphaël Confiant, il passe absolument rien, mais absolument pas. Il lui reproche d'avoir un costume, il lui reproche de ne pas savoir danser, il lui reproche... La seule chose, vous allez voir où je veux revenir, et après on va plonger dans Césaire, il lui dit à la fin, de façon vacharde, qu'il est un peu dépassé. Tu comprends, le problème du colonialisme, c'est plus le même que maintenant. Il lui dit ça. On n'est plus dans le même manichéisme. Voilà.
Oui, sans doute, on pourrait dire ça. C'est vrai que quand Confiant écrit, d'une part, il y a eu une énorme répression et l'État français a aussi offert la consommation aux sociétés des Outre-mer. D'énormes centres commerciaux se construisent, on offre la voiture, il y a une classe, une petite bourgeoisie, une bourgeoisie qui se crée, noire, et à qui on va offrir la consommation. Et une forme d'intégration. Une forme d'intégration, quelques miettes que l'État français jette. Et c'est vrai que du coup, ça change des choses, mais c'est quand même pas, c'est pas la responsabilité de Césaire. C'est comment l'État français fait face à ce qui se passe. L'État français, à un moment, il ne peut pas renoncer à toutes ces terres, ne va pas renoncer. Ce qui va se passer, c'est que il va réprimer énormément et en même temps, l'État ne peut pas vivre qu'à coups de bâton. Il faut aussi qu'il offre un peu quelques carottes, si je puis dire. Et donc c'est ça qui va se passer aussi dans les années 60-70, à la fois d'énormes répressions et puis d'assimilation, d'offrir quelques miettes de l'assimilation. Et de faire une énorme propagande en disant vous voulez que ça soit comme à Cuba ou vous voulez que ça soit comme à Haïti. Et donc de faire peur à une partie de la population. Mmh. En disant mais nous on vous donnera des allocations familiales, on va vous donner des choses, des aides, tout ça, des aides sociales, restez avec nous, restez français. Français, ça vous donne quelque chose. Donc il faut mettre tout ça sur la table quand on analyse ces choses-là, et pas simplement il y a César qui n'aurait pas fait ça, et puis d'autres qui auraient fait ça. Les choses changent, et si on veut repartir à Fanon, quand Fanon dit que chaque génération doit trouver sa propre mission et l'accomplir, ou la trahir, on pourrait dire que celle de César a accompli la mission qu'il s'était choisie, que cette mission ensuite, dans les années 70-80, elle change, et que c'est à Raphaël Confiant et à d'autres de la prendre, et aujourd'hui, à deux jeunes Martiniquais.
Alors, il y a le mot, on va faire une petite parenthèse, ça va peut-être vous faire sourire, sur le mot consommation. Vous êtes intervenu à Malmaison, il n'y a pas longtemps.
Oui.
Je résume rapidement, vous allez voir sur le mot consommation, on est en plein dans le sujet. Il y a un peintre afro-américain, où il est, et qui a reproduit la toile de David quasiment au centimètre près. Simplement, il a ramassé dans les rues de New York un dénommé William, afro-américain. Il l'a mis sur le tableau. D'accord. Il l'a mis sur le tableau. Les deux tableaux se font face comme ça. Et les conférencières arrivent comme ça. Et elles font visiter ça aux gamins. 9, 10 ans, 11 ans. Alors, elles parlent légèrement pour expliquer ce que c'est, etc. Et puis, à un moment donné, elles disent, qu'est-ce que vous voyez comme différence? On est en plein dans la consommation. Et les gosses, 9, 10 ans, lèvent les mains, les chaussures, madame, et ils donnent la marque des chaussures. Magnifique, non?
Ah oui, oui, oui.
Et j'ai trouvé plus pervers, là, il y a deux jours. Il y a deux jours, il y en a un qui 11 ans. Il avait 11 ans, je lui ai demandé. Hein. Alors, il avait reconnu les chaussures, c'est les Summerlord. Vous savez ce que c'est, ça? Moi, j'en sais absolument pas. Et vous savez ce qu'il pose comme question? Est-ce que les chaussures ont servi à sponsoriser l'exposition de 11 ans?
Parce qu'ils ont compris un peu comment marche l'économie aussi.
Bien sûr.
C'est-à-dire que, comment dire, le branding, quoi, c'est-à-dire une marque, que ce soit de montres, de chaussures, je ne sais pas quoi, demande et sponsorise pour que ça fasse de la publicité indirecte ou directe. Mais c'est intéressant de voir que les enfants réagissent comme ça, parce que ça montre à quel point ils peuvent voir le monde à travers ces lunettes. Mais en même temps, on pourrait voir aussi ce que la conférencière pourrait dire, c'est-à-dire donc de partir de ses chaussures. Et pourquoi ces chaussures sont devenues...
Moi, je vais vous dire ce que le responsable de l'exposition que vous avez dû rencontrer a répondu. Il a dit non, mais bientôt Nike va sponsoriser une autre forme d'exposition. Voilà. Bon, voilà. Alice au pays des merveilles, on a pris un coup.
Alors que moi, je serais partie des chaussures en disant, pourquoi elles sont devenues? Qu'est-ce que c'est que cette marque? Où est-ce que les chaussures sont faites? Est-ce qu'elles sont faites dans une usine au Bangladesh dont les femmes, gagnent je ne sais pas quoi? Enfin bon, je veux dire, c'est que même l'objet le plus qui pourrait apparaître comme que de la consommation, il y a toujours une histoire derrière. Donc il y a une histoire derrière ces chaussures. Et pourquoi ces chaussures sont devenues le signe? Effectivement, beaucoup des rappeurs, c'est pour ça que les marmots, on les a repérés. Et donc, comment ça s'organise, si vous voulez, comment ça fonctionne pour que ces enfants en comprennent? Moi, je le fais souvent avec l'objet le plus banal, quoi, pour, à partir de là, dire, mais même, par exemple, la bouteille de plastique d'eau, à partir de là, pourquoi l'eau maintenant se vend? L'eau, à un moment donné, ça se vendait pas, quoi. Je veux dire, pourquoi elle se vend? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de privatisation de l'eau? À quoi ça mène? Qui a le droit à de l'eau potable? Les milliards de personnes qui n'ont pas le droit à l'eau potable? Pourquoi? Pourquoi l'eau est devenue un marché? Enfin, donc, vous pouvez tirer des ficelles très souvent, le plus souvent. Pas rester dans le truc de la marque, quoi.
Qu'est-ce que vous en pensez de l'opération de Willet?
Moi, je trouve ça amusant. Hein. Elle l'a fait pour plusieurs choses. Moi, ce que je trouvais amusant, l'opération que nous, on avait faite, la performance, c'était en fait de partir de ça. Et on avait appelé ça des révolutionnaires haïtiens s'invitent chez Joséphine et Napoléon. Parce que ça a été leur maison. Et on a fait donc le fait qu'une chose qui est très peu connue en France, c'est que Napoléon a rétabli l'esclavage. Et que la France est le seul pays qui a eu deux abolitions de l'esclavage en Europe.
1802 et
1794, c'est première abolition. Voilà. 1802, rétablissement. 1848, finale. Voilà. Définie. Et à partir de là, ce que ça déclenche, l'insurrection en Guadeloupe, avec Louis Delgrès qui se fera sauter au fort de la Matouba plutôt que de se rendre, et la révolution haïtienne qui avait commencé, qui va se terminer en 1804 avec la création de la République haïtienne. Donc on a lu des textes, des extraits des mémoires de Toussaint Louverture, on a lu le texte du rétablissement. le décret, parce que c'était très intéressant, et comment ensuite ça va amener d'autres décrets en France qui sont très peu connus, qui, où Napoléon va interdire les mariages interraciaux et interdire la présence de Noirs sur le sol français. Donc quand on nous dit qu'il n'y a jamais eu de loi raciale en France, si, il y en a eu. Donc alors, vous connaissez le public de Ruelle Malmaison ?
Très bien, oui, oui, je le connais très bien, oui, pour des raisons.
Bon. Donc vous pouvez imaginer, certains étaient. Bon, il y avait des amis qui étaient venus, tout ça, mais enfin, il y avait aussi les petites dames et les petits messieurs de Ruelle, qui est quand même à côté de Versailles, comme vous le savez. Donc on peut imaginer le. Et alors, je voyais leur visage. Stupéfaction, puis après certains le sourcil froncé, parce qu'ils devaient trouver qu'on n'était pas assez gentil avec l'empereur, quoi, hein, parce qu'il y a quand même les amis de l'empereur. Hein. Et on a. Puis après, il y en a qui sont restés jusqu'au bout et qui nous ont dit: mais on savait rien, hein. On a appris des tas de choses.
Un grand secret entre vous et moi: il m'arrive de décomposer la toile de David. Et rituellement, je tombe sur des gens qui trouvent que je ne suis pas très gentil avec Bonaparte, pas seul col du Grand Saint-Bernard, alors que c'est une toile purement de propagande. Mais vous savez, ils ont passé dernièrement cette fameuse image que vous connaissez, là, c'est Césaire qui dit « Ouais, le nègre vous emmerde ». Vous la connaissez ?
Oui.
Et cette démarche de Willem fait penser à ça.
Oui, oui.
Pas
absolument.
Vous, non ?
Tout à fait.
Voilà.
Et moi, je trouvais que c'était bien, si vous voulez, parce que du coup... On a lu les textes, la déclaration de Delgrès quand il dit vivre libre ou mourir. Enfin, de faire résonner les voix de ces révolutionnaires au cœur du palais où ont vécu Joséphine et Napoléon, ça nous a semblé tout à fait approprié.
Mais quand il dit ça, là, moi, ça me fait penser aussi à l'humour de Dessalines, qui se fait sacré empereur, lui.
Et oui.
Il est empereur, lui. Oui. Il est empereur sur le dos de Jacques Ier, je crois.
Oui.
Et puis Christophe, il est roi de je ne sais plus quoi.
Oui, roi Christophe.
C'est un humour, qui...
Oui, oui. Mais c'est des gens, par exemple, Dessalines, à un moment donné, le général Leclerc lui dit lui ordonne de venir le voir. Et lui dit, mais Dessalines, il répond, mais moi, je ne vous connais pas. Hein. Mon général, mon chef, c'est Toussaint Louverture. Quand Toussaint Louverture, quand mon général me dira d'aller vous voir, je viendrai. Mais là, moi, je ne vous connais pas, je n'ai rien à faire de vous. Donc, on sent que c'est des gens qui... c'était pour aussi casser l'image, si vous voulez, de révolutionnaires, un peu n'importe quoi. Ce sont des gens qui ont ce sont des stratèges, ce sont des gens qui réfléchissent. Cette guerre va durer très longtemps, hein, la guerre de libération de Haïti. Et c'était aussi pour faire entendre. Puis alors, de faire aussi voir que même quand Toussaint Louverture sera au Fort de Joux, dans le Jura, en train de crever de froid, etc.,
terrible, hein,
et qu'il demande quelques aménagements, bon, vraiment rien, on pourrait dire, et bien Napoléon absolument dit au directeur, vous ne céderez rien, vous interdisez toute visite de sa famille, vous lui enlevez pratiquement les couvertures, enfin, s'acharne. Et je pense que Napoléon, quand il a reçu la lettre de Toussaint Louverture, du plus grand des Noirs au plus grand des Blancs, pour lui, ça devait être absolument insupportable.
Insupportable.
Ça devait être insupportable.
Oui, bien sûr.
Parce que lui... non, mais attendez, un Noir qui se proclame égal à moi...
Césaire va être fasciné par Toussaint Louverture.
Bien sûr.
Peut-être jusqu'à une assimilation quelque part, non ?
Peut-être. En tout cas, il écrit cette biographie. Il écrit aussi la tragédie du roi Christophe. Ouais. Haïti, comme vous le savez, il y est allé. Restera pour lui quelque chose d'extrêmement important sur une réflexion sur le... sur la révolution, sur la victoire de la révolution et sur le pouvoir qui s'installe après, les dangers qui se posent. C'était vraiment, et je pense que ça a dû le nourrir même dans sa position, lui, de responsable politique. Il pensait beaucoup, beaucoup à cette question, puisque même dans une saison au Congo, il se pose cette question de la révolution et du pouvoir.
Avec ce discours marxiste qu'il va avoir. Mais ça, on va le voir, on va plonger là-dedans. Avant d'écouter un peu de jazz, je vais vous faire quand même vous faire du baume au cœur, si vous voulez, pendant 2 minutes. Vous avez publié Un féminisme décolonial, la Fabrique Édition, voilà. Et... ce jeudi 5, il y avait une grande manifestation à la République, et c'est la première fois que je les vois. Je vois ces femmes des grands hôtels qui ramassent nos saletés, il faut dire notre merde, et elles étaient groupées politiquement avec des tracts.
Oui, oui. Pour moi, ces grèves représentent quelque chose de très, très profond. C'est depuis 1 an, 2 ans qu'on voit les femmes dans les hôtels qui se mettent en grève.
C'est très courageux, n'empêche.
C'est très courageux.
Parce qu'elles sont pas...
C'est très courageux. Certaines n'ont pas vraiment de papier. Mais c'est pour moi, elles sont d'un courage extraordinaire. Elles sont face à un énorme pouvoir. je veux dire, quand elles sont face à Accor, Accor, c'est le sixième groupe mondial
de l'hôtellerie. Pouvoir masculin.
Pouvoir masculin.
Et pouvoir racial, quoi.
Pouvoir racial, ce sont des femmes, des mères de famille, très souvent, parce que certaines ont été diplômées dans leur pays, mais c'est tout ce qu'elles trouvent à faire quand elles arrivent en France. Elles vous racontent les histoires de comment elles sont traitées, mais vraiment, c'est aussi une industrie où règne énormément de harcèlement sexuel et de harcèlement moral. Et donc, oui, pour moi, ça représente le cœur même des luttes aujourd'hui de ce que j'appelle un féminisme décolonial, avec aussi, par exemple, celle des mères, des jeunes du Mantois aussi. C'est-à-dire de ces femmes qu'on ne voyait jamais dans les manifestations.
Les invisibles. Oui.
Voilà, parce qu'elles ont été renvoyées par le pouvoir masculin, le pouvoir capitaliste, par tous ces. Par le sexisme aussi. Elles sont renvoyées à de l'invisibilité. Et puis alors, mais c'est des petites dadames, celles-là, elles n'ont même pas le droit à la parole, puis on ne va pas les écouter, puis qu'est-ce qu'elles ont à dire ? Et elles prennent la parole. Pour moi, c'est absolument puissant. Oui.
Puisqu'on va faire des tours par Malmaison, j'ai pas envie de faire du sentimentalisme facile, ni de la politisation facile, ou du politique facile. Il y avait une dame qui venait le matin à 7h30. Vous voyez où est Roy Malmaison ? Elle habitait à Mantes. Cette dame était noire, fine, avec une grande dame avec des dents en or, absolument souriante et tout. Elle arrivait à 7h30, elle ramassait nos merdes, voilà. Elle partait, elle avait 1h30 pour aller ailleurs. Elle faisait 1h30, elle avait encore 1h30 et toute la journée comme ça. Et un jour, elle avait un cahier où il fallait remplir ses heures. Et jamais elle n'osait se mettre un quart d'heure en plus. Bon, bref, passons. Et un jour, on l'a vu, elle avait perdu du poids, elle avait pâli. On l'a vu, elle a perdu du poids, elle avait pâli. Puis un jour, on l'a plus vue et on a appris qu'elle était morte, sûrement d'un cancer, et qu'elle était venue bosser en la fermant jusqu'au bout. Dans ce milieu-là, en ramassant nos merdes, excusez-moi. Oui. Voilà.
Non, mais c'est moi, je rencontre aussi des femmes, elles ont déjà eu 3 opérations du poignet, elles ont les genoux complètement fichus. Il faut savoir qu'on les empêche dans les hôtels de boire, quand elles font les 10-15 chambres qu'elles ont à faire, parce qu'un client ne doit pas voir une femme de ménage en train de boire un verre d'eau. Elles n'ont pas le droit d'utiliser les toilettes, même si elles les récurent 15 fois après. De toute façon, en général, c'est plus propre que ce que les clients ont laissé. Et tout est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une usure du corps, vraiment, qui va avec l'humiliation aussi, de la manière de leur parler, de la manière dont elles sont invisibilisées. Les clients passent à côté d'elles, c'est comme si elles n'existaient pas, c'est un mur, quoi. Et tout est construit comme ça pour les rendre invisibles et pour mépriser leur travail. Et vous avez raison, c'est surtout aussi, elles veulent bien faire leur travail, et elles ont une fierté. Et elles disent que justement, pour bien faire leur travail, elles ne peuvent pas faire 20 chambres d'un coup, quoi. Elles ne peuvent pas. Et donc, tout ce travail est fait pour les rendre totalement invisibles, pour les humilier, et pour rendre leur travail comme s'il était, que c'était rien, alors que toute l'hôtellerie repose là-dessus. Toute l'hôtellerie repose là-dessus. Je veux dire, il n'y aurait pas ça. Je veux dire, quand on dit que Paris, c'est visité par je ne sais pas combien de personnes chaque fois, tout un tourisme repose là-dessus. Et le tourisme, c'est un des business qui marche le plus en France.
A tisket, a tasket, a brown and yellow basket. I send a letter to my mummy on the way I dropped it. I dropped it, yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue, but not a single thing to do. She went peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. A tisket, a tasket, I lost my yellow basket. And if that girlie don't return it, don't know what I'll do.
tisket, a tasket. I lost my yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again?
Was it green?
No, 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 no.
Was it red?
No, 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 no.
Was it blue?
No, 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 no. Just a little yellow basket.
Oui. Ah. Non, bon, on est bien 01 43 71 89 40 avec la jolie voix de Monique. Non, pas sœur Monique, j'ai bien dit. Non, je ne dirai jamais une chose pareille sur Radio Libertaire. Bah, avec Nègre, je suis Nègre. Je resterai entretien avec Françoise Vergès et Albin Michel, itinéraire du savoir. Voilà. Voilà. Donc, vous l'avez rencontré? Vous avez la chance de le rencontrer?
Bah oui, je le raconte, si vous voulez. Je trouvais qu'en 2004-2003, j'entendais très souvent parler de Césaire comme si c'était fini, quoi, comme s'il était mort et enterré. Ouais. Et alors, moi, j'étais complètement, je me disais.
Comment vous expliquez ça, tiens? Qui n'a pas. On a eu Aragon, on a eu Neruda, on a eu Éluard, on a eu Rixos, on a eu Hikmet, et Césaire, boum!
Boum!
Pourquoi?
Boum! Je pense
que avec le Parti communiste.
Je pense que c'est aussi le côté de la manière dont la France, enfin, traite les écrivains qui viennent de ces outre-mer. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a un côté même, par exemple, où on va célébrer quelqu'un qui d'origine noire américaine ou africaine, sans voir ce qu'il y a chez soi. Vous voyez, c'est-à-dire sur les territoires. C'est-à-dire, connaît-on des écrivains de Nouvelle-Calédonie,
oui.
Des terres du Pacifique,
mmh.
Non. Mais par contre, si c'est quelqu'un, vous voyez, un peu exotique au sens en dehors de la France, on connaîtra. Je pense que c'est un effacement par la France elle-même, enfin par le monde intellectuel et culturel, de la différence en France, des différences dans la situation française. Mais donc on me disait tout le temps ça. Je me suis dit, c'est pas possible. Et Aimé Césaire avait très bien connu mon grand-père Raymond Vergès et mon père Paul Vergès. Donc je lui envoie, comme je raconte, une lettre un jour en disant « Vous ne me souvenez pas de moi, j'étais une petite fille, tout ça, etc. Mais voilà, je voudrais faire des entretiens avec vous, parce que... mais plus sur votre parcours politique que sur poète et écrivain, parce que je trouvais qu'il y avait eu beaucoup de choses là-dessus. » comme sur... Et puis moi, ce qui m'intéressait, c'est quand même ce moment, puisqu'on parlait beaucoup de la question postcoloniale, tout ça. Et puis, je ne reçois pas de réponse. Et puis, je ne sais pas, une semaine plus tard, il y a un coup de fil, et puis il y a une dame... qui était l'assistante de M. Césaire, qui me dit, mais M. Césaire vous attend. Il ne comprend pas pourquoi vous êtes... Et alors moi, j'étais là, attendez, mais j'attendais sa réponse. Il dit, non, il me dit de vous dire qu'il est âgé, tout ça, donc n'importe quoi peut arriver d'un moment à l'autre, donc il vous attend très rapidement. Donc moi, j'ai tout vu, j'ai pris un billet d'avion, et je suis partie le lendemain. Donc je le voyais tous les matins, parce qu'il se fatiguait assez rapidement, il était déjà âgé. Et puis l'après-midi...
C'est impressionnant de rencontrer comme ça, ou pas? Non, bah, c'est quelqu'un qui est... Qui...
Il était très, très gentil. Et puis, il se souvenait beaucoup de mon grand-père. Et
d'accord, vous étiez un peu pistonné, vous étiez un peu dans la famille, tout ça. Ouais. D'accord.
Et il était adorable. Non, j'étais...
Il y a un mot,
oui. Peut-être c'est aussi, parce que si vous voulez, moi j'ai grandi aussi, je ne sais pas, il y avait des personnes importantes à table, au déjeuner ou à dîner. Donc j'ai eu un peu l'habitude de voir des personnes sans être dans une... C'est-à-dire, je suis dans un très grand respect, dans une admiration, mais pas dans une relation inégale, quoi, parce que je les ai vus, je les ai entendus.
Il y a un mot, donc vous avez un entretien avec Césaire, hein, et il y a un mot qu'il prononce à un moment donné, c'est le mot irréparable.
Oui.
Et il le prononce... pour l'esclavage, pour ceux qui voudraient donner de l'argent en contrepartie de l'esclavage. Mais moi, en ayant fréquenté Césaire comme lecteur, là, je me demande si le mot irréparable n'est pas beaucoup plus profond que ça.
C'est très profond, je pense.
Allez-y,
très, très, très profond.
Vous êtes là pour ça aujourd'hui, c'est ça qui m'intéressait. Allez-y, alors, c'est irréparable.
Je pense que c'est très profond. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là-dedans, au-delà, évidemment, de ce qu'il craignait avec l'histoire de réparation financière. C'est comme il le dit d'ailleurs, c'est que du coup, les Européens diraient, bon ben voilà, ça y est, c'est payé, fini, on n'en parle plus. Alors qu'il voulait que, si vous voulez, on pourrait dire que la blessure reste ouverte. C'est-à-dire que la catastrophe ne s'efface pas. Elle a été là, c'est irréparable. Quelque chose a basculé dans le monde, dans l'humanité à un moment donné. On a déporté des millions d'Africains. On a vidé ce continent. On les a transformés en objets de commerce, en objets d'héritance. Les femmes ont été violées, les femmes noires, pour produire des enfants qui étaient, avant même de naître, de la monnaie. Il y a un basculement. Il y a vraiment un basculement et c'est là-dessus que se construit le capitalisme européen.
Ça, c'est intéressant, on est en plein dedans.
Et du coup, si vous voulez, on voit comment le capitalisme se construit vraiment sur la prédation, sur l'extraction. Et pas seulement l'extraction de l'or, de l'argent, de la canne à sucre, du café, du coton, mais l'extraction de la force des personnes, de leur corps. Et donc, traite au tous les sens du terme, c'est le cas de le dire. Et je pense que c'était cela qu'il disait. C'est-à-dire que comment pourrons-nous réparer ce qui a été fait.
C'est le problème de l'exploitation, parce que, puisqu'au début du discours sur le colonialisme, il dit qu'il y a deux choses, c'est l'esclavage et le prolétariat.
Et le prolétariat, c'est cette question de transformer des personnes, des êtres humains, en choses d'une certaine manière, dont on extrait la force de travail, mais complètement jusqu'à l'épuisement. Mmh. Les esclaves, leur espérance de vie, je dirais en formule, hein, pour parler comme ça, parce qu'on peut le comprendre, c'était de 8 à 10 ans sur une plantation. C'est rien. Il y en a qui arrivaient, ils avaient donc 16 ans, ben, ils avaient 8 ans plus tard, 10 ans plus tard, ils étaient morts. Mmh. Et je dirais, c'était donc on exploitait jusqu'à l'épuisement. Avec peu, et c'est pour ça qu'il y en a eu tellement, parce qu'il fallait en rechercher. Donc quand on entend dire encore récemment par une écrivaine française que finalement, ben non, l'esclavage, les propriétaires, les esclavagistes avaient intérêt à soigner leur force de travail, c'est une incompréhension totale de l'exploitation. Bon, elle est totalement bête, elle.
Qui c'est?
Comment elle s'appelle? Angot.
Ah oui, c'est bon, allez, hop. Elle n'est jamais venue sur Radio Liberté.
J'espère bien, parce que alors, sinon je m'en vais.
Restez.
Non, mais... Donc, si vous voulez, ça, il faut comprendre ça.
D'accord.
Et de la même manière, alors, si on peut penser, comme vous le dites, que Césaire fait le parallèle, enfin, fait pas un parallèle, mais parle du prolétariat, on sait que c'est aussi la question de l'exploitation du corps, pas seulement de la force de travail. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont on sait, bon, par exemple, dans les usines anglaises, il y avait des femmes qui tombaient mortes dans les usines de tissage, avec en plus tout ce qu'elles absorbaient de poussière. Il y avait, et que c'est que les luttes qui ont... Donc l'esclavage a posé un modèle, posé un modèle d'exploitation. Pour les esclaves, c'était jusqu'à leur mort très rapide, puisqu'on en faisait venir d'autres, ou alors on faisait reproduire par des femmes esclaves la force de travail. Mais c'est vraiment basé là-dessus. Je pense, c'est pour ça que pour moi, l'esclavage colonial reste extrêmement important comme au cœur même de la compréhension de comment fonctionne le capitalisme, et que c'est pas qu'il faut faire attention, il y a le féodalisme, puis l'esclavage, puis le capitalisme, et je sais pas, non, l'esclavage, il est avec nous encore aujourd'hui.
Vous savez, Césaire a écrit, ben vous la connaissez, hein, « J'habite une blessure sacrée, j'habite des ancêtres imaginaires, j'habite une soif irrémédiable, j'habite un voyage de 1000 ans, j'habite une guerre de 300 ans. » On a l'impression que ce problème de l'esclavage est absolument ancré dans lui.
Est absolument.
Bien que, alors on va revenir à Raphaël Confiant, bien que, je ne sais pas si c'est Confiant ou un autre, quelqu'un le traite de nègre gréco-latin, quelque part.
Oui, oui. Mais c'est, maintenant, peut-être, il faut peut-être regarder plus aujourd'hui, ce que dit le LKP en Guadeloupe, par exemple, ce que disent des jeunes martiniquais guadeloupéens qui sont beaucoup plus, qui recomprennent aussi ce qu'a été l'esclavage de nouveau pour mieux comprendre ce qui se passe dans leur pays. Le ravage qu'apporte le colonialisme et qu'a apporté l'esclavage sur ces terres qui, effectivement, colonisées au XVIe, XVIIe siècle et qui, aujourd'hui, au XXIe siècle, sont des terres dévastées. Qui se reste des terres dévastées de pauvreté. C'est quand même, on se dit que... la France qui s'enorgueillit de son passé colonial devrait se poser des questions. Donc oui, pour Césaire, Césaire le disait aussi, si vous voulez. C'est irréparable parce que pour lui, il est né martiniquais, mais il sait bien que ses ancêtres n'ont pas décidé un jour de venir en Martinique. Qu'ils ont été déportés. Et c'est de ça qu'il vient. Il vient de là. Il ne vient pas d'un... Et ça restera. Et comment dépasser cela? Comment arriver à ce qu'il appelle un nouvel humanisme dans d'autres écrits? Puisque l'humanité, au moment où l'Europe se lance dans la conquête du monde, va être séparée en deux. L'humanité qui a le droit de vivre, et puis l'humanité qui, elle peut être... Elle est jetable.
Fanon le dit quelque part, jusqu'en 1950, jusqu'au discours sur le colonialisme, effectivement, la parole nègre n'avait pas existé.
n'avait pas existé autant. Il y a eu la négritude, il y a eu le... Mais si vous voulez, la force de ce que dit Césaire dans le discours sur le colonialisme, qui est un texte formidable, alors, qui devrait être enseigné partout. Hein.
Est-ce que c'est pas là le problème ? Parce que le problème, il est déjà député, il est déjà maire, c'est un officiel, il va au Palais Bourbon. Mmh. Et dès les premières pages du discours sur le colonialisme, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que l'Europe est indéfendable. Spirituellement et moralement. Mmh. Il dit aussi aux bons bourgeois, il faut imaginer ce que c'est que la chambre après la guerre, il leur dit, vous portez Hitler en vous.
Oui.
Mais c'est une provocation. C'est pour ça que confiant, il ne sera peut-être pas bien
compte. Oui, mais il ne sera pas. Parce que, en fait, quand on relit, puisque les discours de Césaire à l'Assemblée nationale ont été republiés récemment, et c'est quelqu'un, mais il n'arrête pas de les attaquer. Il n'a pas la langue dans sa poche, comme on dit. Je ne sais pas s'il y a tellement de députés aujourd'hui qui parlent comme ça, hein. Il y a un moment donné, je crois, comment il s'appelle l'autre là, le chef du MoDem, vous m'excuserez, mais alors c'est comme
le chef du MoDem, c'est lui qui
Bayrou. Son père était déjà député et il dit à Césaire, mais sans nous, est-ce que vous seriez, etc.
Ah, c'est le même, c'est son père. Ah, génial, bravo. Alors allez-y, oui.
Et puis il lui répond, mais moi je serais là où je devrais être, quoi. Il le renvoie dans les cordes, quoi. Et chaque fois, c'est quelqu'un qui avait la répartie. Il se laissait jamais faire, jamais. Et moi, je l'avais entendu tout ça, mais je suis admirative toujours du courage de ce petit bonhomme, parce qu'il était, quand je dis petit, il était tout petit. Mais il avait absolument aucune faiblesse devant...
Refus du christianisme ?
Oui. Aucune faiblesse devant toutes ces personnes.
Refus de la bourgeoisie aussi.
Il a quelque chose en lui
qui
venait vraiment de profond, parce qu'il dit que ça ne vient pas de sa famille, puisqu'il parle de sa famille en des termes plutôt négatifs, en disant que c'est des petits bourgeois qui n'aspiraient qu'à être reconnus par les Blancs. Il a une force en lui qui est vraiment... qui lui a donné, je pense, cette capacité, cette poésie, magnifique, le fait d'être aussi, d'écrire des pièces de théâtre, d'écrire des essais, et d'être un homme politique. Et il a siégé tout le temps, il intervenait tout le temps. Mmh. C'est pas du tout un député passif, comme certains aujourd'hui peuvent l'être. C'est une voix à l'époque, une grande voix dans l'Assemblée nationale, je dis pas simplement en dehors, mais dans l'Assemblée nationale, il ne les lâche pas d'une semelle.
Est-ce que vous avez lu, il n'est pas venu sur Radio Libertaire non plus, notre camarade Zemmour reprend les mêmes dénominateurs communs que l'extrême droite, ce que dénonce Césaire. C'est-à-dire, Césaire dénonce Joseph de Maistre, et Zemmour se réclame de Joseph de Maistre. Césaire dénonce Renan, je ne sais pas si vous connaissez le texte, il est pas mal, hein. Et Zemmour se réclame de Renan. Oui. C'est-à-dire que tout est passé, il y a eu la guerre, etc. On tombe sur les mêmes bases.
On tombe sur les mêmes bases, il y a un retour vraiment au racisme et puis à une idée de la civilisation européenne complètement délirante. On y retourne avec tous ces... Oui, il y a une régression d'un monde, parce que je ne dirais pas du monde intellectuel, ça serait insultant, mais d'un monde, je ne sais pas si on peut l'appeler intellectuel, mais médiatique en France, qui en tout cas a accès aux médias, et qui est absolument lamentable. Mais c'est surtout, très souvent, moi je trouve qu'ils sont totalement ignorants. Hein.
Bah,
ils disent n'importe quoi. Hein.
Vous savez quand il y a eu ce gros blabla sur Aimé Césaire pour ses cendres au Panthéon, là, ils ont interrogé, j'ai regardé une émission, ils interrogent les hommes politiques, Aimé Césaire, comme s'il vivait avec, etc. Le seul qui a osé dire que c'était difficile, c'est le footballeur. Vous savez comment il s'appelle,
Thuram.
Il a dit, oui, je l'ai lu, c'est difficile.
Ben oui,
au moins c'est sincère. Oui. Mais vous preniez les Bayrou, vous preniez, etc., c'était du petit lait.
Oui, Bayrou, vous n'oubliez pas que quand il était ministre de l'Éducation nationale, il a fait qu'il n'y ait plus Césaire au bac.
Ah, ben ça, je ne savais pas. Allez-y.
Il a fait, il y avait des textes de Césaire au baccalauréat littéraire, je suppose. Il les a enlevés. En disant que je ne sais plus quelle était l'excuse, mais enfin, si vous voulez. Non, il y a ce qu'on disait avant, il y a une espèce de répression de ce que sont ces textes, ce texte de discours ou sa lettre de démission du Parti communiste français de 1956. Pour moi, ce sont de grands textes politiques. Ce sont des textes qui posent des questions qui sont en train de remuer et qui reviennent énormément aujourd'hui sur ce qu'on appelle le décolonial. C'est-à-dire que, en fait, il y a les grands mouvements progressistes, pour dire ça, ou d'émancipation en France, ne sont pas décolonisés.
Le Parti communiste n'a jamais été très clair par rapport au phénomène colonial.
Non.
Non, ça, et Césaire s'est fait un peu embarquer là-dedans avant de démissionner, sa fameuse lettre à Thorez, c'est ça?
Oui, oui, sa fameuse lettre à Thorez. Alors, bon, il y a des militants, tout ça, qui ont été évidemment formidables. Mais c'est vrai que, si vous voulez, quand on voit que ce soit les grands syndicats, c'est-à-dire ce que Césaire, dans le discours sur le colonialisme, puisque nous en parlons, parle de l'effet retour. En disant qu'on ne peut pas esclavagiser, un pays ne peut pas esclavagiser ou coloniser sans que ça lui revienne. Et lui, il parle du nazisme, c'est-à-dire il dit ce que vous avez fait, les camps, les génocides, ça vous revient. Mais maintenant, comme c'est l'homme blanc qui fait à l'homme blanc, vous êtes scandalisé, mais vous l'avez fait. Mais moi, je continue dans cette proposition que nous fait Césaire, cette proposition théorique, et je dis que les lois raciales, les lois d'exception qui ont été faites, et que ça n'a jamais été posé dans la pensée de l'émancipation, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'on fait aussi? C'est-à-dire que l'émancipation, on la pense aussi dans cette question coloniale et raciale, et non pas simplement la colonisation doit s'arrêter, le statut colonial doit s'arrêter, mais comment ça nous a contaminés? Comment ça s'est insinué dans notre pensée? C'est ce que Césaire dénonce dans sa lettre de démission quand il dit, vous voulez bien la fraternité, mais tant que vous êtes le grand frère, il dit aux communistes. Il dit, ça s'appelle le fraternalisme, comme paternalisme. Il dit, non, c'est pas possible. Il dit, oui, je suis communiste, mais je suis noir aussi. Et noir, ça veut dire quelque chose, parce que c'est pas seulement la couleur de ma peau, c'est j'ai été fait noir par la civilisation dont vous vous réclamez, par le pays dont vous vous réclamez. Donc il y a quelque chose que vous devez penser, en quoi vous-même, est-ce que votre pensée, vos théories d'émancipation n'ont pas été, ça s'est pas insinué dans votre pensée?
Et c'est pas pour ça qu'il a été occulté, justement, par la gauche, quelque part?
Peut-être. Je pense que, de toute façon, la gauche ne veut pas entendre beaucoup de gauche. Moi, si vous voulez, quand, par exemple, dans Un féministe colonial, je parle d'Olympe de Gouges en disant que, oui, elle est anti-esclavagiste, mais qu'il y a un anti-esclavagiste qui était raciste, comme il y a eu un anticolonialiste qui était raciste, c'est-à-dire, on est contre. Mais ces gens sont quand même pas nos égaux, quoi.
Mais vous avez une gauche qui a quand même accepté Frantz Fanon.
Voilà. Donc, quand je dis il y a une gauche, quand je dis on peut être anti-esclavagiste, on a pu être anti-esclavagiste, mais raciste, anticolonialiste, mais raciste, c'est pas tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que cette partie-là doit aujourd'hui, en fait, la manière dont le racisme s'est insinué dans la pensée française, dans la pensée théorique, doit être révisée aujourd'hui. Et c'est ce que Césaire posait dès 1956. Et c'est ça, son incroyable apport dans cette pensée de déconstruction du colonial, de la colonialité, que Fanon poursuivra aussi dans les articles qu'il écrivait pour Al-Mujahid et qui ont été réunis ensuite dans l'enceinte de la révolution algérienne ou pour la révolution africaine, où il dénonce une gauche en disant « Vous voulez bien soutenir les Algériens tant qu'ils font les choses comme vous voulez qu'ils les fassent. » Donc quand ils posent des bombes, là ça va pas. Vous les critiquez. Donc c'est tous... Et je pense qu'aujourd'hui, encore... toute une partie de la gauche n'a pas fait ce travail.
Fanon meurt en 62.
Oui. 61.
Il y a 61, décembre. C'est 61
décembre. Oui, parce que l'indépendance, c'est 62.
Il meurt en 61.
Il meurt en décembre.
Donc, en 58, il y a effectivement les pleins pouvoirs votés à De Gaulle. Quel rapport ils ont entre 58 et 61?
Je crois qu'il n'y en a plus tellement.
Il n'y a pas.
Alors, attendez, quand est-ce qu'a lieu le congrès à Rome? Alors, il y a eu le congrès à Paris où Fanon était, le grand congrès des artistes, des écrivains, des artistes noirs. Mais là, mais après, il y a le congrès qui est à Rome. Je pense que je ne suis pas sûre que Césaire y soit. D'accord. C'est là que Fanon rencontre Sartre et Beauvoir et que Sartre accepte d'écrire la préface des Damnés de la Terre.
Terrible préface, je l'ai relue sur la violence. C'est quelque chose qui cotonne.
Donc, je pense que là, ils ne sont plus tellement en relation.
Vous l'avez en tête, le discours sur le colonialisme, là, bien?
Plus ou moins,
d'accord.
Oui, enfin,
vous savez qu'il commence par Hitler, c'est un texte politique, et il ne peut pas s'en empêcher. À un moment donné, il parle de l'autre et amont.
Vous l'avez, là.
Ça tombe, et il vous fait une analyse quasiment marxiste de l'autre et amont.
Oui.
Voilà.
C'est quelqu'un qui était très intéressé. Je veux dire, c'est un grand lecteur. C'était un très grand lecteur, Césaire. C'était un très grand lecteur, il me parlait de tas de choses. Je veux dire, c'était quelqu'un qui lisait énormément. C'est pas simplement un écrivain. Et il connaissait très très bien la littérature française. Et il la connaissait bien, il l'étudiait vraiment. C'était quelqu'un avec qui vous pouviez avoir une conversation vraiment poussée sur l'écriture. Non, c'est quelqu'un qui avait moi, j'étais désespérée quand je voyais que les gens l'ignoraient, quoi, l'avaient presque mis de côté. Et c'est vrai que comme il y a eu ce Fanon César, c'est vrai que Fanon est plus, quand on le lit, on est plus emporté. Mais je trouve que le César de Discours sur le colonialisme et de la lettre de démission. C'est incroyable, ce sont le discours sur le colonialisme, devrait être connu autant que les damnés de la Terre.
Au niveau de l'humour noir de l'histoire, il ne faut pas oublier qu'il quitte, qu'il quitte Paris en 1934. C'est-à-dire que le 6 février 1934, ça commence à sérieusement monter, et que sa fameuse phrase comme quoi l'Europe est indéfendable, il ne pouvait pas mieux tomber.
Et puis, il a connu aussi le moment de la guerre en Martinique, où il y avait le gouverneur qui était un total pétainiste. Il publia à l'époque Tropique, que Breton fameusement découvrira. Il dira,
dans une mercerie.
Oui. Et donc, c'est quelqu'un qui est aussi, il ne faut pas oublier, quelqu'un qui produira. Il produira de l'objet à penser. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire de penser qu'en Martinique, dans ces années-là, il sort une revue avec Suzanne Césaire, évidemment, qui a été très importante. C'est des choses qu'on oublie de ce que ça signifiait dans ces années-là, dans les années 40, de sortir une revue de cette qualité. C'est pas que c'est étrange, c'est que il faut se rendre compte de ce que c'était que la Martinique, avec la censure qu'il y avait, avec les blancs qui dominaient
tout. Une tradition du doudouisme, un peu cucu.
Et donc c'est contre tout ça. Ouais. Et aujourd'hui, je sais pas, c'est de la résistance. C'est de la résistance. Et la compréhension qu'il faut produire du texte aussi, qu'il faut produire de la pensée et de la publier. Parce que vous êtes face à une machine de publication et de propagande coloniale. Donc vous devez aussi produire du texte anticolonial.
Le monde noir a connu quand même que trois météores, parce que Senghor, c'est pas mal du tout, quand vous le lisez.
C'est pas mal.
Damas, vous l'avez lu? Oui, c'est magnifique, Damas. Moi, je l'ai relu dernièrement. Complètement occulté aussi, Damas.
Encore plus occulté. Alors qu'il est puissant, lui. Hein.
Oui, c'est très beau, Damas. Oui, très, très beau.
Puis il y va à fond, lui. Hein. Il a.
On va poursuivre ça avec un peu de jazz, et puis on va descendre dans quand même ce caillot du retour. Hein, magnifique, je l'ai relu. Merci.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité. La radio de la Fédération anarchiste. Je crois que le disque de Géant a un tout petit souci pour essayer de régler le problème. Déjà, je lui redonne la parole.
Ah, bravo Monique, bravo, de mieux en mieux. Je peux vous faire confiance au 01 43 71 89 40. Donc on est en 1937, Françoise, et puis là, ça fait 40 pages peut-être, il y a un météore qui tombe, c'est le cahier d'un...
Retour au pays natal.
Magnifique, ça tombe comme ça.
Alors vous connaissez l'histoire.
Allez-y.
Il avait un grand copain, Peter Guberina, qui était un Yougoslave, et César n'avait pas beaucoup d'argent, il était tout jeune étudiant, il parlait tout le temps, toute la nuit, se marcher, traverser Paris. Et c'est l'été, et il reste à Paris parce qu'il n'a pas d'argent pour retourner en Martinique. Et il écrit, et son copain lui dit Mais viens me voir. Donc il descend, il prend le train, il part en Yougoslavie. Et il arrive, alors il raconte d'ailleurs qu'il croise il se promène à un moment donné, il croise une paysanne qui part en courant, en hurlant, parce qu'elle avait vu le diable. Parce qu'elle voit un noir. Et alors lui, il en rigole, mais surtout quand il arrive dans la ferme des parents de son copain, et qu'il ouvre la fenêtre, il voit une île, et il demande à son copain, mais c'est quoi cette île? Et il lui dit, Martinska. Il dit, c'est la Martinique. Et donc, à partir de là, il va aller acheter un cahier d'écolier, au village du coin, et commencera à écrire cahier d'un retour au pays natal sur cette côte yougoslave en voyant cette île. Et donc, ce qui m'avait intéressé dans cette histoire, c'est cette circulation possible, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est de cet endroit-là qu'il repense à son île et qu'il repense à ça, qu'il écrit, qu'il finira ensuite en arrivant à Martinique et qu'il continue à écrire à Paris. Mais cette circulation aussi... d'un pays à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'un paysage à l'autre, je trouve ça formidable.
Partir, comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serai un homme juif, un homme kafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas. L'homme famine, l'homme insulte, l'homme torture. On pouvait à n'importe quel moment le saisir, le rouer de coups, le tuer, parfaitement le tuer, sans avoir de compte à rendre à personne, sans avoir d'excuses à présenter à personne. Un homme juif, un homme pogrom, un chiot, un mendigo. Mais est-ce qu'on tue le remords, beau comme la face de stupeur d'une dame anglaise qui trouverait dans sa soupière un crâne de Otento? C'est magnifique, non?
C'est magnifique, voilà. Tout est absolument magnifique. Voilà. Oui, c'est un texte extrêmement puissant aussi, à la fois qui est évidemment un grand poème, mais qui est déjà rempli de toutes les choses qui va développer ensuite dans ses pièces, dans ses essais, dans ses biographies, dans son intervention, qui est aussi de qui il est dans ce monde, de ses damnés, de ses réprouvés, de ses marginalisés.
Ça lui colle à la peau à chaque fois.
Fabriqué par l'Europe comme étant des riens. Et que non, nous sommes quelque chose, nous sommes quelqu'un. Et c'est pour ça que après, moi, j'avais choisi comme titre « Nègre, je suis, nègre, je resterai », parce que c'était une affirmation.
Et pour venir à ce que vous dites, en 1937, à la Martinique, un tel langage, on tombe de où? Comme dit l'autre, elle a vu le diable, parce que c'est exactement...
Oui, c'est pour ça que je vous dis, il est une force, c'est quelqu'un qui est quand même... À l'époque, on n'est pas dans les années 60-70, après la guerre, de ce réveil et de cet immense mouvement global de décolonisation, enfin, de fin des empires coloniaux en tout cas, avec les indépendances de cette première étape de décolonisation. Mais lui, c'est avant déjà, il jette la grenade dans le ronronnement européen de satisfaction, quoi. Non, c'est une voix très puissante. Pour moi, c'est une voix très puissante qui reprend un peu. Alors, je veux dire, dans le domaine de la langue française, hein, puisqu'il y en avait dans le monde caribéen anglophone ou hispanophone, mais dans le monde dit de francophone, c'est une des premières voix aussi fortes au XXe siècle, hein, je veux dire. 19e, les révolutionnaires haïtiens, et puis tout d'un coup, voilà.
Il va être très marqué par son voyage en Haïti.
Très marqué.
C'est en quelle année? 44, je crois.
Oui.
Il est très marqué par son voyage en Haïti. Et pourquoi il est marqué?
Parce qu'il misère.
La misère, c'est
la
ça?
La misère, le fait qu'il voit cette révolution qui a été dévoyée et par les mulâtres, ce qu'il appelle les mulâtres, contre les Noirs, et qui est vraiment au cœur d'ailleurs de la question de la révolution haïtienne. Hein, il y a Michel Rolf Trouot ou Lionel Urbon, tout ça, ils en ont parlé de ça, si vous voulez, que au cœur aussi de la question haïtienne, dès le départ, a eu, entre ce qu'on appelle les mulâtres et les Noirs voulant vraiment une révolution radicale, et les mulâtes, parfois, des arrangements. Enfin, de le dire comme ça, ça peut être un peu simpliste, parce qu'il y avait des mulâtes qui étaient d'un côté et puis des noirs de l'autre, mais il y avait quand même, oui, une contradiction profonde créée, je pense, par le système colonial. Mmh. Parce que le système colonial offrait un petit peu quelque chose aux mulâtes, c'est-à-dire à ces personnes qui étaient un des parents était blanc. Et on voit, si vous voulez, là où finalement vous avez tout à gagner et rien à perdre finalement, parce que vous avez été mis d'un côté comme ça, comme rien, et d'autres qui auraient pu se dire je veux pas totalement perdre ce que ce système peut m'offrir, et donc une révolution beaucoup plus radicale. Donc c'est ça que Césaire observe, et il a été très
ça va lui faire
affecté.
Peur pour la Martinique, oui, c'est ça, voilà. Affecté, c'est ça, hein.
Ouais, parce qu'il se dit, ça peut donner ça.
Je pense que c'est ça.
Ça peut donner ça, voilà. Et je crois qu'il aura peur de ça. Mais moi, j'entendais la même chose à La Réunion, hein, dans la famille anticolonialiste dans laquelle j'ai grandi. C'est-à-dire, si on avait eu l'indépendance, ce serait la petite bourgeoisie qui régnerait, et donc ça serait la corruption, le pouvoir abusif.
Il rencontre Magloire Saint-Aude. Ça vous inspire, Magloire Saint-Aude?
Non.
Poète haïtien.
Oui.
Et bon, ils ont ressorti ça, Magloire Saint-Aude. Alors, pourquoi je fais une vite parenthèse? Je ne sais pas si la musique, on va l'entendre après, on va voir. Magloire Saint-Aude, vous me corrigez, hein. Il est, dans sa jeunesse, à l'école avec François Duvalier.
Oui.
Voilà, François Duvalier. Il a donc, François Duvalier devient le tonton Macoute qu'on sait, là. Magloire Saint-Aude va avoir une déchéance, il va picoler, etc. Et Jean-Claude Duvalier, lorsqu'il va venir au pouvoir, lorsque Magloire Saint-Aune va mourir, il va lui faire des obsèques nationales.
Oui, mais c'est ces moments-là aussi dans ces sociétés où finalement jouent aussi des liens d'enfance, des liens, vous voyez, des fidélités à quelque chose qui se vont être perdues ensuite, qui seront perdues avec l'individualisme du néolibéralisme, avec le fait que finalement...
C'est terrible ce mot, un néolibéralisme. Ouais, terrible, ouais. Hein, terrible, ouais, on est en plein dedans. Ouais. Hein. Oh, bah, je crois que Monique a réussi à réparer le disque. Si, non, on peut y aller, Monique ? Oh, très bien. Au 01 43 71 89. Faut pas casser les disques, Monique, comme ça. Je sais que vous êtes très nerveuse sur tous les jours de grève quand vous venez de loin, mais faut y faire attention. Voilà. Nègre, je suis nègre, je resterai. Entretien avec Françoise Vergès. Où en est la pensée de Césaire actuellement par rapport à. Puisque maintenant vous travaillez
sur. Oui. Je pense qu'il y a un retour quand même. En tout cas, un grand retour dans le monde américain. Aux États-Unis.
C'est la question que je voulais vous poser.
Aux États-Unis, vraiment.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors voilà. Alors moi, je vous conseille ce livre. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est à la Fabrique, peut-être. Alger, capitale de la Révolution.
Oui, je l'ai lu.
Vous l'avez lu ?
Oui,
d'accord.
Oui, je l'ai lu.
Et on voit les Black Panthers. On voit ce qu'ont été les Black Panthers là. Et on a l'impression, c'est en 70. Il n'y a plus rien qui reste de Césaire.
Il n'y a presque plus rien reste de Césaire. Oui. Je pense que c'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que Césaire est effacé par Fanon, est effacé aussi par le poids qu'a eu l'Algérie dans la la fois dans, pour la, l'imagination de toute une génération, pour l'importance que ça continue à avoir en France, dans la société française, pour les enfants aujourd'hui dont les parents sont algériens, sont venus travailler. Il y a une forte chose et la Martinique pèse, si je peux me permettre ce mot, beaucoup moins. Je pense que c'est une erreur d'oublier à ce point ce qu'on appelle les Outre-mer. Parce que d'abord, ils continuent à être là. Donc ils continuent à démontrer que la France est un État colonial, que ça ne s'est pas arrêté justement avec l'Algérie. Mais bon, c'est très difficile parce que la France a réussi à faire oublier qu'elle était un État colonial. C'est très fort. Moi, ça marchait encore. Moi, quand je suis arrivée en France, j'arrive à la fin des milieu des années 70. On parle encore et j'étais dans des mouvements avec les Guadeloupéens, Guyanais, Martiniquais, Réunionnais, les immigrés contre le Bumidome. Et on faisait encore des meetings, tout ça, contre le colonialisme français. Ça se disait encore beaucoup. Et il y avait une partie de l'extrême-gauche qui soutenait, mais aussi une partie du Parti communiste ou des syndicats. Et puis ça s'est effacé. Dans les années 2000, je dirais, tout d'un coup, on n'a plus du tout parlé du colonialisme. On ne disait plus ce mot, colonialisme français. Et comme si ce qui se passait en Nouvelle-Calédonie, dans les terres du Pacifique, à Mayotte, tout ça n'était pas du colonialisme, mais on ne sait pas très bien quoi. Alors on dit post-colonialisme, mais on fait finalement, c'est la même chose. Et je pense que du coup, ça a entraîné Césaire, parce que le fait que Fanon soit lié à l'Algérie, et puis qu'il ait écrit tous ces textes, qui restent des textes absolument très forts, et qui continuent à nourrir toute une jeunesse, a marginalisé Césaire. Dont il n'est resté que le fait qu'il a été maire et député, donc qu'il aurait été vendu, si je puis me permettre. Ça, hein, voilà, un peu, si vous voulez.
Il ne réagit pas par rapport à Cuba, par exemple, ou des choses comme ça?
Non, Césaire, pas directement, non. Et alors qu'il y a toute une jeunesse qui va être vraiment, évidemment, tournée vers Cuba. Je pense que Césaire aussi, il y avait des moments où ça l'énervait tout ça un peu. Du côté, ouais, mais ils savent pas ce que ça veut dire, quoi. C'est un peu du romantisme. Il y croyait pas. Alors pourquoi est-ce que finalement, alors qu'il était très radical dans ses paroles, mais alors vraiment, il laissait rien passer. En politique, il n'a pas appelé à prendre, aller dans les montagnes.
Il a refusé de recevoir Sarkozy, déjà, c'est déjà sympathique. Giscard aussi, là, oui.
Oui, il a refusé beaucoup de choses, oui, hein, je vous dis. Moi, c'était quelqu'un qui n'avait pas peur de tout ça. Il n'avait pas besoin de cette reconnaissance. C'est quelqu'un qui était quand même... Il savait qu'il était noir, est-ce que ça voulait dire. Et donc, il n'avait pas peur de ces gens-là. Ces gens-là ne l'impressionnaient pas. Ça, c'était quand même une force, parce que je peux vous dire que, moi, venant des Outre-mer, il y en a plein qui se vendent. Hein, parce qu'il y a la peur, il y a le désir d'être connu, d'avoir une petite place. Alors, finalement, le blanc vous ouvre la porte, vous restez quand même dans le couloir, mais c'est déjà ça, vous n'êtes plus dehors. Et puis, vous espérez qu'un jour, il va vous recevoir dans le salon. Mais Césaire, lui...
On a commencé tout à l'heure avec le mot utopie et le mot politique, on va essayer de le finir là-dessus. Est-ce que ça n'a pas été ça, le phénomène de Césaire, c'est-à-dire ce poète totalement inspiré avec ce discours? Il est jeune lorsqu'il écrit son cahier, il est jeune, il a 24 ans.
Oui.
24 ans, et là, il dit à un moment donné, j'ai envie de dire, je ne peux pas laisser la Martinique comme ça.
Oui.
Je ne peux pas la laisser comme ça.
Oui. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais qu'il dit que quand on vient lui dire « Présente-toi comme député » en 45 pour l'Assemblée constituante, il dit « Mais non, mais moi ça ne m'intéresse pas, moi je suis un poète. » Et il est convaincu, on le convainc. Et il va prendre en fait ça au sérieux. C'est pour ça, c'est ça qui m'intéressait dans mes entretiens avec lui, c'est que... Parce qu'il disait toujours « Mais moi je suis un poète. » Mais en même temps, il a agi, quoi. Il n'est pas du tout resté un politique...
Il travaille sur les écoles, il travaille sur tout ça, oui, sur l'eau, etc.
Et puis,
je vous dis,
il fait partie de commissions à l'Assemblée nationale, il intervient constamment, il va protester contre les violations partout, il va faire un travail politique et il a un côté, du coup, ça le plonge là-dedans. Il me disait que quand la misère à Fort-de-France, il fallait qu'il fasse quelque chose. Et c'est peut-être, comme je le dis, c'est pas des choses très extraordinaires, du coup. Parce qu'apporter de l'eau et de l'électricité, vous voyez, ça fait un peu... Mais je pense que c'est en même temps, c'est ça le politique.
Donc dubitatif par rapport à tous les reproches que lui fait Raphaël Confiant, c'est-à-dire...
On aurait bien sûr, mais moi aussi quand j'étais adolescente à La Réunion, j'aurais voulu qu'on prenne les montagnes et qu'on descende des montagnes et que... C'est insupportable le pouvoir colonial, c'est insupportable, insupportable, ça... Ça peut vous rendre totalement enragé. Et en même temps, si vous voulez, comme j'ai vu aussi ce que ça voulait dire de quand même améliorer la vie. Alors, comment faire? Comment faire par rapport, face à un pouvoir d'État? On est dans des îles, on lance une guérilla qui va nous aider. On est, dans les années 80, on n'était plus comme dans la situation des années 60. C'est pas pour être pragmatique, c'est pour dire comment va-t-on organiser une résistance pour faire plier l'État, vraiment. Et puis, parce qu'il y a eu un désintérêt en France, hein, vous savez, parce qu'il y a eu un moment, il y avait en France un intérêt pour les luttes anticoloniales dans les Outre-mer. Aujourd'hui, avant que vous lisiez quelque chose sur comment ça se passe, regardez pour le scandale du chlordécone en Guadeloupe, le temps que ça a pris pour que ça paraisse dans les journaux nationaux, qu'il y ait des choses à la télévision. C'est qui parle des conséquences des essais nucléaires dans les îles du Pacifique, le fait que des enfants naissent avec des leucémies, qu'il y a des atolls qui menacent de s'effondrer avec des tonnes de déchets nucléaires qui se répandraient dans le Pacifique. C'est la France qui a fait ça. La France, et la France continue à refuser l'État de reconnaître la relation entre les tests et toute cette maladie. La cause et la conséquence, ils disent que non, que c'est parce que les gens du Pacifique se nourrissent mal. Et moi, je peux vous dire, il y a deux ans, j'avais lu tous les rapports des congrès des Verts et des écologistes qui parlaient des dangers de Fessenheim ou des centrales nucléaires pour les citoyens français. Il n'y avait jamais un mot, jamais un mot sur ce qui s'était passé en Algérie et ce qui s'était passé ensuite dans le Pacifique. Jamais. Alors l'Algérie, on pourrait se dire, bon, pour eux, c'est des Algériens, donc voilà. Mais le Pacifique, c'est la France. Il y a des Français qui vont là-bas. Et là, c'est cette séparation entre, du coup, le repliement sur la France qui se fait, même dans des mouvements de gauche ou progressistes, qui va aussi expliquer l'effacement de Césaire.
L'Europe est impardonnable.
L'Europe est impardonnable.
Je suis absolument d'accord avec
absolument.
Vous. Bon, alors, nègre, je suis nègre, je resterai magnifique. Et puis, n'oubliez pas ce beau visage où il dit le nègre vous emmerde.
Oui,
moi,
oui,
j'adore
alors,
cela.
J'adore.
Et puis, votre livre à la fabrique, Françoise Vergès, Un féminisme décolonial. Hein? C'était un plaisir.
Merci.
Hein, voilà.
Merci.
Par ce jour de grâce.
Et puis,
vous...
vraiment, il faut dire
Reddit.
De lire Césaire, de relire Césaire.
Sûr,
il faut encourager
tout
le monde.
Je n'arrête pas de le dire. Le discours sur le colonialisme,
voilà.
qui est vraiment un texte politique au sens réel du terme. Hein. Et puis, au niveau poétique, bien sûr, le cahier.
Oui.
Et puis
mais si on veut lire qu'une seule chose, parce que si on veut dire que, par exemple, sa poésie est difficile, tout ça, ce que je ne crois pas, mais enfin, peu importe.
Oui.
J'encourage tous les jeunes à lire Discours sur le colonialisme. C'est un texte absolument contemporain. Absolument contemporain. Ce n'est pas du tout un texte sur le passé, c'est un texte sur aujourd'hui.
Oui. Et là, vous m'enlevez ma réplique parce que j'ai prêté ce livre à quelqu'un. Non, j'ai fait lire ce livre à quelqu'un qui ne voulait pas le lire. Je lui ai dit, mais c'est un livre politique. Alors, on m'a répondu, oh non, pas le politique. Je lui ai dit, attention, ça va beaucoup plus loin que le politique. Parce que c'est vraiment l'être qui est là. Hein?
Tout à fait.
Voilà. Monique, merci pour... Voilà, et à bientôt. Et attention, lundi prochain, Monique, hein? Avec un disque en béton ce coup-ci sur Radio Libertaire au 01 43 111 89 40. Thank you.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Donc, après la voix charmeuse de Monique, Serge au micro, comme d'habitude, et comme lundi dernier, Nicolas n'est pas avec nous, il est en tournage, il travaille. Voilà, dans la prochaine émission Trou Noir, je crois qu'il sera avec nous. Comme d'habitude, je vais vous lire la présentation de l'émission d'aujourd'hui. Cette présentation, vous la trouverez sur le site de notre émission. Vous faites Trou Noir au pluriel Radio Libertaire, vous tombez directement sur le site et vous aurez l'ensemble de nos émissions. Celle d'aujourd'hui, donc, sera à partir de demain. Voilà, une petite présentation rapide avant que je demande à Sarah, notre invitée, de se présenter. Plus longuement que de son petit texte. Voilà. Pour galvaniser l'unité nationale soutenant l'invasion de l'Ukraine, Poutine exalte la grande guerre patriotique contre l'Allemagne nazie. Particulièrement, citant particulièrement les habitants de Leningrad, défenseurs héroïques de Leningrad, assiégés, symboles du courage et de l'amour sacré du peuple pour sa patrie. Quelques années plus tôt, un survivant, enfant pendant le blocus, rappelait « On n'était en rien des héros, on survivait ». Poutine rejoint ainsi l'utilisation politique par ses prédécesseurs, notamment en 1944, des terribles souffrances de centaines de milliers de civils. Citation. Pas un instant, ils n'ont douté de la victoire, avec un grand V, c'est moi qui rajoute, parce qu'ils savaient que le grand Staline était avec eux. Sarah Grouchka, donc notre invitée, qui a fait de longs séjours, a notamment questionné les enfants d'une classe en 2018, leur demandant de choisir un mot évoquant le siège de Leningrad. Leur réponse. Alors, je ne dis pas qu'elles y sont toutes, mais quelques-unes. Famine, pain, larmes, horreur, souffrance, mort, froid, survie. Faire entendre les voix des assiégés, humains jetés dans les poumons, dans les tourments de l'histoire, rejoignant celles des victimes du goulag, des concentrations, d'Ukraine, de Gaza, prend une dimension universelle. Elle a consulté dans divers centres d'archives de la ville plus de 400 journaux intimes tenus pendant le blocus, contredisant totalement l'instrumentalisation, par le discours officiel des morts pendant le siège. Leur nombre, estimé à 800 000, est secret défense. Ses recherches ont abouti à soutenir une thèse de doctorat fin 2019, « Voix du pouvoir, voix de l'intime, les journaux personnels du siège de Leningrad 1941-1944 ». Nous la recevons pour présenter le livre qui en est issu, Le siège de Leningrad, septembre 1941, janvier 1944. Elle a dédié ce livre au blocade Niki, on peut traduire par assiégé, je pense.
Oui. Chose.
Voilà. Bonjour Sarah, bonjour. Merci d'être avec nous, puisque tu étais en région parisienne. Évidemment, on en a profité pour présenter ce livre qui est sorti il y a peu de temps, je crois que c'est en mars de cette année, quelque chose comme ça. C'est l'édition Talendier, je crois que je ne l'avais pas précisé, que évidemment nous recommandons fortement. Ce qui nous paraît important déjà, c'est qu'avant qu'on rentre vraiment dans le détail du livre, c'est que tu nous dises un peu comment tu t'es intéressé en général à la Russie et plus particulièrement au siège de Leningrad, parce que c'est pas un intérêt livresque, c'est vraiment quelque chose qui avait nécessité beaucoup de, tu vas nous en parler je pense un petit peu, de voyages, de contacts, peut-être de difficultés. Donc comment tu étais amené, qu'est-ce qui t'a vraiment fait connaître cet événement important, très peu connu en tout cas dans la littérature française ou dans la presse française?
Alors, pour répondre à la question sur mon intérêt, de quand date mon intérêt pour la Russie, il faudrait remonter au cours d'histoire de 3e, donc quand j'avais 13-14 ans, où on avait ces premiers cours sur l'histoire soviétique, et en particulier sur la période stalinienne. Et là,